Un purpura. Qu'est-ce qu'un purpura? Comment réagir face à un purpura? Nous allons voir quelques définitions. D'abord, qu'est-ce qu'un purpura? Ensuite, trouver la démarche diagnostique qui permet donc d'aller vers un traitement adapté en fonction de l'étiologie. Donc un purpura, c'est une lésion qui correspond à une hémorragie, c'est du sang qui sort des vaisseaux et qui loge en sous-cutané et ou en muqueux. Et la caractéristique principale, c'est que lorsqu'on appuie sur cette lésion dite élémentaire, la tache hémorragique donc ne s'efface pas. Elle ne s'efface pas à la vitropression. Donc c'est une hémorragie sous-cutanée ou sous-muqueuse qui peut être ponctiforme, locale ou étendue. Donc une fois qu'on a cette hémorragie ou cette lésion qui ne s'efface pas à la vitropression et qui correspond à une hémorragie sous-cutanée ou sous-muqueuse, il faut tout de suite se dire mais à quoi est-ce que ça correspond? Donc, on commence toujours par un interrogatoire, ensuite un examen clinique et un examen biologique. L'examen clinique est très important, notamment sur l'interrogatoire. Et quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'est associé à des signes cliniques tels que l'hyperthermie, donc la fièvre? Depuis quand? Est-ce que ces lésions sont partout? Donc le patient, il faut, en l'interrogeant bien sûr, l'examiner entièrement nu. Rechercher des signes d'hémorragie, puis les conséquences de l'hémorragie, parce que qui dit hémorragie dit anémie et dans certains cas obligation de transfusion. Donc, est-ce qu'il y a prise de médicaments? Est-ce qu'il y a des antécédents? Depuis quand? Donc ça a commencé depuis l'enfance ou c'est récent? Donc l'interrogatoire permet déjà d'avoir un contexte. Ensuite, l'examen clinique qui consiste bien sûr à étudier le patient dans sa globalité. Donc il doit être nu. On recherche des lésions de type nécrotique, nodulaire ou infiltré. Il faut voir si c'est ponctiforme, si c'est en placard, est-ce que c'est localisé, voilà, ou est-ce que c'est étendu un peu partout. Et on cartographie en quelque sorte le purpura. Il ne faut pas non plus oublier d'aller rechercher un syndrome méningé, des douleurs articulaires. Donc l'examen va aller palper, il faut chercher des signes d'infection, d'inflammation, des signes de maladie dite maladie de système, des arthralgies, des douleurs articulaires, donc inflammatoires. Étudier est-ce que le patient est infecté, donc est-ce qu'il est tachycarde, quelle est sa température, est-ce qu'il a un ictère, est-ce qu'il a des adénopathies. Donc l'examen doit être complet, rechercher tout signe d'anomalie clinique. Donc après cette inspection, palpation, percussion, auscultation, l'auscultation bien sûr on va rechercher un souffle hein, d'insuffisance vasculaire, peut-être en lien avec une endocardite. Donc qui dit endocardite dit derrière un rendu osselaire. Donc des hémorragies qui peuvent se retrouver sur la peau glabre, bien sûr, ou sous les ongles. Donc on peut retrouver aussi des faux anévrismes dans le rendu osselaire. Ensuite, forcément, un bilan biologique et face au purpura, ce que l'on étudie dans un premier temps, c'est le taux de plaquettes et la coagulation. Donc on fait une uration de formule sanguine plaquette avec dosage des facteurs de la coagulation, TPTCA, fibrinogène, donc PDF, et puis les facteurs de la coagulation. Alors, lorsqu'on a les résultats, la première chose, c'est de dire est-ce qu'il s'agit d'une thrombopénie ou pas. On parle de purpura thrombopénique lorsque le nombre de plaquettes est inférieur à 150 000 par millimètre cube. Au-delà, il n'y a pas de thrombopénie, donc on est plutôt orienté vers un purpura peut-être lié à un dysfonctionnement de plaquettes, ou le plus souvent, un dysfonctionnement au niveau vasculaire, peut-être une inflammation. Donc, est-ce qu'on est face à une thrombopénie ou pas? Premier élément, puis rechercher aussi des éléments en faveur d'une CIVD. Lorsque on est face à une thrombopénie, très souvent, il faut, c'est un avis hémato, hein, bien sûr, on fait un myélogramme et on va étudier la lignée pour voir est-ce que cette thrombopénie est d'origine centrale donc, ou pas. Donc quand c'est une thrombopénie d'origine centrale, on voit associé au myélogramme une absence des cellules qui font les plaquettes, donc une absence de mégacaryocytes. Et lorsque la thrombopénie est dite périphérique, c'est-à-dire qu'il y a une consommation de plaquettes, dans ce cas, on a une augmentation des mégacaryocytes, c'est-à-dire les éléments qui vont faire plus tard les plaquettes. Voilà, donc en fonction de la notion de thrombopénie, purpura thrombopénique ou pas, et quand il y a thrombopénie centrale ou périphérique, on peut déjà avoir une bonne orientation diagnostique. Alors, face à un purpura thrombopénique, bien entendu, dans l'examen clinique, on a étudié l'impact de l'hémorragie. Est-ce qu'il y a gingivorragie? Est-ce qu'il y a des bulles hémorragiques au niveau de la cavité buccale, épistaxis ou pas, des hémorragies digestives? Donc, dans l'examen clinique, il faut, bien sûr, en dehors de la cartographie, évaluer l'importance des signes hémorragiques. Alors, dans certains cas, bien sûr, on étudie les hémorragies digestives, urinaires, utérines, méningées, parce que dans la méningocoxie, hein, on a associé à cela, bien sûr, une méningite, un purpura. Donc, rechercher un syndrome méningé, c'est une urgence, hein. Alors, autre élément, bien sûr, ne pas oublier l'impact sur la vue en pensant faire un fond d'œil. Là, c'est systématique. Hein. Quand on a des plaquettes en dessous de 20 000, il faut s'inquiéter d'une potentielle hémorragie rétinienne. Donc, quelles sont les principales étiologies dans les purpuras thrombopéniques? On a des étiologies donc périphériques. Dans ce cas, ça peut être un hypersplénisme, donc la rate qui consomme anormalement les plaquettes. On peut avoir toujours en périphérie associé une thrombopénie à une coagulation intravasculaire disséminée. Donc, c'est les grandes infections, les grandes détresses du système. Par exemple, suite à une infection virale, en phase ultime, le système peut complètement se dérégler, faire une CVD. Voilà, donc les septicémies hein, liées, qui génèrent une CVD, les piqûres de serpents et tous ces bestioles-là. Donc, en périphérie, ça veut dire qu'on consomme en périphérie les plaquettes. Donc, CIVD, hypersplénisme. On a des médicaments qui peuvent détruire les plaquettes, les sulfamides, l'aspirine, la quinine, la rifampicine, les barbituriques à une époque. Donc, voilà. Et puis les virus, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le CMV, les hépatites virales. Donc les virus, on a aussi bien sûr certaines maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, hein, qui crée une destruction accélérée des plaquettes par un phénomène donc de consommation ou d'un phénomène immunologique. On a bien sûr, en cas de transfusion sanguine, si ce n'est pas adapté, un purpura, donc une thrombopénie liée à la transfusion. Donc nous sommes sur les étiologies périphériques. Dans les étiologies périphériques, il y en a un tout particulièrement qui est une maladie auto-immune. On parle du purpura thrombopénique idiopathique. Mais on arrive au purpura thrombopénique idiopathique après avoir éliminé toutes les causes, les étiologies que j'ai citées, donc à savoir hypersplénisme, CIVD, septicémie, les médicaments, transfusion, et puis certaines hémopathies, des leucémies lymphoïdes. Voilà. Donc en périphérie, les causes. En centrale, on a forcément l'aplasie médulaire. Une aplasie médulaire qui peut être secondaire à une chimiothérapie, par exemple, ou idiopathique, elle aussi. On n'a pas la cause. On a toujours en origine centrale des envahissements dans le cadre de métastases, de leucémie aiguë. On a en centrale l'intoxication alcoolique aiguë, ça existe. Et puis on a des thrombopénies dites d'origine anténatale, par exemple le syndrome de Viscott-Aldrich, et puis on a également le syndrome de May-Eglin ou le syndrome de Fanconi. Et les carences en vitamines B9, B12, ou une autre pathologie, on l'appelle l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc, les origines centrales, c'est quoi? C'est l'aplasie, l'envahissement médulaire, l'alcool, les thrombopénies anténatales, Viscott-Aldrich, carences en vitamines, et puis, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Ça, c'est le central. En périphérique, on l'a cité tout à l'heure, l'hypersplénisme, CIVD, donc les médicaments, et puis le purpura thrombopénique idiopathique. Alors, le purpura thrombopénique idiopathique, c'est quoi? C'est une maladie auto-immune qui se voit chez l'enfant et la femme. C'est acquis, donc on voit apparaître des lésions dites ecchymotiques, mais parfois aussi sont associées des gingivoragies, un épistaxis. Donc ce purpura cutanéo-muqueux est ecchymotique et pétéchial, donc en gouttes. Et c'est une thrombopénie qui est donc d'origine auto-immune et que l'on peut retrouver au niveau diagnostique par la présence au myélogramme d'un excès de mégacaryocytes, c'est-à-dire que la moelle osseuse est dite riche. Donc au myélogramme, on a un excès de mégacaryocytes, c'est une thrombopénie isolée avec un excès de mégacaryocytes. Alors, dans certains cas, il faut faire des tests associés. Je ne rentre pas des tests pour la durée des plaquettes. Je ne rentre pas dans cette définition-là. Ça, c'est une affaire de spécialiste. Il faut, quand on est face à un PTI, considérer que c'est un diagnostic d'élimination. Alors, c'est une pathologie qui régresse, bien sûr, avec le temps, les traitements, corticoïdes et autres. Mais il faut aussi se dire que la mortalité touche quand même 5% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc on vient de parler des purpuras, donc d'origine thrombopénique. On a vu les thrombopénies, donc qui peuvent être périphérique, centrale. On a le PTI, donc purpura thrombopénique idiopathique, qui est un diagnostic d'élimination. Et maintenant, on va vers le purpura vasculaire. Le purpura vasculaire qui est, lui, lié aux vaisseaux. Donc, les vaisseaux qui peuvent être fragilisés. Alors, on a bien sûr les vascularites. Les vascularites, ce sont des pathologies inflammatoires en lien avec un désordre immunologique. Concrètement, les anticorps se déposent en complexe dit humain et finalement les vaisseaux sont fragilisés. On voit ça dans la périartérite noueuse, dans la polyarthrite rhumatoïde, dans le purpura rhumatoïde, on voit ça dans le lupus. Et on peut le retrouver aussi dans les vascularites, dans d'autres formes de vascularites, le diabète notamment, les patients qui sont sous corticoïdes, la maladie de Cushing en fait, et la sénilité tout simplement. Donc dans la sénilité, on voit un purpura vasculaire qui s'installe, ça se voit sur le dos des mains par exemple, au niveau du visage, les taches sous-cutanées. Donc, purpura peut être vasculaire, lié donc à des vascularites ou fragilité. Puis on a aussi, dans le purpura vasculaire, des causes infectieuses. La méningite, l'endocardite et tout ce qui est rougeole, par exemple. Rougeole que l'on ne voit plus aujourd'hui. On a également un purpura vasculaire dans une autre maladie virale, donc la varicelle. Donc les étiologies, les voilà. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'on est face à un purpura qui, très souvent, est lié aux zones déclives. C'est-à-dire que lorsque le patient tient debout, ben, c'est au membre inférieur. Lorsque le patient a alité, c'est dans le dos. Le purpura vasculaire est plutôt déclive. Et donc, il est diffus et il évolue par poussée. Alors très souvent, il n'y a pas d'hémorragie, des muqueuses, parce que quand on est sur du purpura vasculaire, on n'est pas dans l'autre configuration, donc de thrombopénie ou de thrombopathie, on est plus là sur des vaisseaux fragiles, il n'y a pas d'hémorragie, des muqueuses associées dans le purpura vasculaire. Au total, face à un purpura, il faut se poser la question, est-ce que c'est lié à un manque de plaquettes, donc on parle de thrombopénie, moins de 150 000 par millimètre cube, ou est-ce que ce n'est pas lié aux plaquettes? Il faut apprécier le contexte, hein, début des symptômes, est-ce qu'il y a un syndrome une méningite associée à un syndrome infectieux, est-ce qu'il y a des médicaments, est-ce qu'on est dans un contexte viral, dans un contexte de maladie de système. L'interrogatoire doit être le plus riche possible. Sur un plan clinique, est-ce qu'il y a eu des hémorragies, est-ce qu'il faut transfuser le patient ou pas? Est-ce que le patient est dans un contexte septique, sévère? Voilà. Est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques ou pas? Et une fois qu'on a l'idée thrombopénie liée donc purpura liée à une thrombopénie ou purpura non thrombopénique, on peut déployer. Donc purpura thrombopénique, il peut être central, donc c'est la moelle osseuse qui est ou envahie ou totalement détruite par les médicaments ou des virus. Voilà, donc manque de vitamines ou l'alcool par exemple. Ou est-ce qu'on est sur une thrombopénie dite périphérique parce que ça consomme, ça peut être la CIVD, ça peut être la rate, on parle d'hypersplénisme. Ou est-ce que c'est périphérique, mais on ne sait pas. Donc on parle d'idiopathique, donc on parle thrombopénique idiopathique. Une fois qu'on est sur de la thrombopénie, voilà les diagnostics potentiels. Mais quand il n'y a pas de thrombopénie, on parle de vasculaire. Et le vasculaire, c'est quoi? Donc c'est infectieux, c'est les vascularites, ou c'est lié à une fragilité, par exemple les corticoïdes, l'âge, le diabète, les maladies telles que l'amylose.